Enchanté tout à l'heure, il y a un instant. C'était une prière d'être nourri de ton céleste pain, d'être nourri de la personne du Seigneur Jésus. Et ce matin, nous avons été très, très occupés aussi de son amour. Et nous pourrions lire quelques versets qui nous parlent de l'amour de Christ. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 16. Par ceci, nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous. Et nous, nous devons laisser nos vies pour les frères. Un deuxième verset bien connu dans Jean 13. Verset premier. Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 35. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Tribulation ou détresse ou persécution ou famine ou nudité ou péril ou épée? Dans l'Épître aux Éphésiens, d'abord dans le chapitre 5, verset 25, « Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifie en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin que lui se présentât l'Assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. » Toujours dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 19, « Et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. » Un peu plus haut, verset 17, « De sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs et que vous soyez enraciné et fondé dans l'amour. » Et dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, la fin du verset 20, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'amour, l'amour de Christ. Il y a peut-être d'autres passages de l'Écriture, hein, du Nouveau Testament qui nous parlent de l'amour de Christ. 1 Jean 3, verset 16, « Par ceci nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous. » Voyons que lui, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Et nous avons connu l'amour, nous avons saisi ce qu'était l'amour, parce que lui a laissé sa vie pour nous. C'est-à-dire que donner sa vie, eh bien, c'est l'expression la plus haute de l'amour. Donner sa vie pour des êtres misérables que nous étions, eh bien, Christ a manifesté et nous a fait connaître son amour. Il a donné sa vie, et donner sa vie, c'est la plus haute expression de l'amour. Il n'y a pas plus, il n'y a pas plus qu'une telle chose. Et donc nous voyons que Christ nous a montré l'étendue de tout son amour pour nous en offrant sa vie pour chacun de nous. Et renoncer à sa vie, donner sa vie, eh bien, c'est le renoncement le plus complet de soi-même. Ici, nous, chacun de nous, eh bien, nous tenons à notre vie. Nous tenons à être en bonne santé, sans doute, mais nous tenons à la vie. C'est quelque chose de précieux pour chacun de nous. Nous sommes des êtres vivants, des créatures, mais des êtres vivants. Eh bien, donner sa vie, c'est l'expression la plus haute de l'amour. Nous savons que l'amour de l'humain, eh bien, nous avons un amour qui est relatif. Nous n'avons pas un amour souverain comme Dieu. Dans la nature même de Dieu, nous savons que Dieu est lumière, mais Dieu est amour. Eh bien, c'est sa nature même. Et c'est un amour qui est souverain. Mais pour l'être humain, eh bien, il faut toujours un motif pour faire naître l'amour dans nos cœurs. Et en particulier dans 1 Jean 4, si nous lisons un peu plus loin, verset 19, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. C'est-à-dire, notre amour, il est relatif. Christ nous a manifesté son amour, d'abord, eh bien, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Et donc, nous voyons dans cette expression que nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous. Il a renoncé à sa vie. Il a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Et afin d'exprimer ce qu'il y avait dans son cœur, cet amour, eh bien, il s'est donné en sacrifice. Et ce qui a de tout à fait de remarquable quand nous lisons les évangiles. On a évoqué peut-être ce matin dans un cantique, Gethsémané, eh bien, aucune considération n'a pu le dissuader de donner sa vie. Et nous savons par l'Écriture qu'il avait une connaissance parfaite de ce qui se trouvait devant lui, son abaissement jusqu'à la mort. Et donc, il a donné sa vie de son propre gré. Et donc, nous voyons dans son sacrifice, donc, sa parfaite bonté et son amour parfait. Et nous avons besoin de sonder dans les Écritures ce qu'a été l'amour de Christ. Il s'est donné lui-même et il a laissé sa vie pour nous. Voilà ce que dit l'apôtre. Et nous, nous l'aimons, un amour qui est relatif, parce que lui nous a aimés le premier. Mais dans la nature même de Dieu, et dans la nature même, bien sûr, du Fils de Dieu, eh bien, cet amour, Dieu est amour et Dieu est lumière. Dans Jean 13, que nous aimons souvent à citer. Jean 13, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Alors, dans ce verset, nous voyons sans doute un premier caractère de la fidélité de l'amour de Jésus-Christ et une fidélité que rien ne peut altérer. Et nous avons, ayant aimé les siens, et nous faisons partie des siens, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. C'est-à-dire que Jésus-Christ nous aime non pas pour un temps donné, et comme on le dit souvent, en particulier un frère ici, jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'extrémité, pas pour un certain temps, non. Hein, il nous aime et il les aima, il aima les siens jusqu'à la fin. C'est-à-dire, quelles que soient les preuves qu'il a connues, les circonstances qu'il a connues, quelles que soient les circonstances que nous connaissons, eh bien, l'amour de Christ est un amour fidèle et inaltérable. Rien ne peut arrêter son amour envers nous aujourd'hui. Et si nous lisons le chapitre 13 de Jean, nous voyons qu'il connaissait à l'avance la trahison de Judas, il connaissait à l'avance le reniement de Pierre. Eh bien, nous voyons que malgré cela, malgré ces choses qu'il a rencontrées dans son chemin, eh bien, malgré cela, il a aimé les siens qui étaient dans le monde et les a aimés jusqu'à la fin. Et c'est précieux de savoir que, quelles que soient nos circonstances, eh bien, Jésus-Christ nous aime. Et quelles que soient les épreuves que nous pouvons rencontrer, et donc peut-être que dans l'Épître aux Romains, il nous en est dit quelque chose. Ce qu'on a lu tout à l'heure dans Romains 8. Alors le premier caractère, c'est la fidélité de l'amour de Christ. Le deuxième caractère que nous avons lu, c'est que qui est-ce qui nous séparera, verset 35 du chapitre 8, qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Et il nous est dit, tribulation, détresse, persécution, famine, nudité, péril, épée. Et un peu plus loin, nous ne l'avons pas lu, verset 37, au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure dans le cantique. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Le deuxième caractère de l'amour de Christ, nous l'avons dans ce passage, c'est la force. La force de l'amour de Christ. C'est-à-dire, rien dans l'univers n'est aussi fort que l'amour de Christ. Et souvent, on ne s'arrête pas à ce verset qui nous parle des épreuves que nous pouvons rencontrer. Tribulation, détresse, persécution, famine, nudité, péril ou épée. Si nous comptons, il y a 7 épreuves. Et si nous les examinons les unes après les autres, nous voyons que ces épreuves sont de plus en plus fortes, sont de plus en plus douloureuses. Il y a une croissance dans les difficultés. Et l'apôtre Paul, manifestement, il nous parle des preuves qu'il a connues. Donc la première épreuve que nous pouvons rencontrer, c'est la tribulation. Alors, la tribulation, c'est l'affliction. Et ça signifie une souffrance qui est prolongée et qui angoisse. Et qui accable, qui opprime. Et donc, dans la vie, nous pouvons connaître des souffrances prolongées, accablantes, opprimantes, angoissantes, des afflictions dans nos familles, dans le travail. Eh bien, nous voyons que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ dans de telles situations, dans une telle situation. La deuxième chose qui nous est dite, c'est la détresse. La détresse, c'est un désespoir intérieur, avec le sentiment d'être, on pourrait dire, dans une impasse. Et nous pouvons connaître de telles situations. On ne voit aucune solution, il n'y a rien, tout est noir. Et c'est une détresse, quelque chose, un désespoir intérieur. Eh bien, même dans la détresse, eh bien, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. La troisième épreuve que nous ne connaissons pas beaucoup, nous ici, en Occident, c'est la persécution. La persécution, un harcèlement. On peut connaître peut-être des jeunes, quand on est chrétien, on se dit chrétien, et quand nous affirmons que nous appartenons à Christ, à l'école, dans le travail, à l'université, à la faculté, on peut être persécuté, c'est un harcèlement moral et à cause de notre foi. Eh bien, même dans cela, il ne faut jamais oublier que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. La quatrième chose qui nous est dite, c'est la famine. Le manque de nourriture, les privations. Et cela nous parle d'une misère extrême. On peut connaître une misère extrême dans le travail, ou la perte d'un travail, la recherche d'un travail, une angoisse, eh bien, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. La cinquième, c'est la nudité. Ça évoque le dénuement, la pauvreté sans doute, et ce qui est lié à la pauvreté, c'est la honte. Et bien même dans des circonstances aussi accablantes, difficiles, eh bien rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Enfin, les deux derniers, il y a les périls, les dangers, une menace imminente, l'épée, enfin, l'épée qui parle de la mort, des martyrs, de la guerre que nos frères et sœurs peuvent connaître dans les pays de l'Est. Eh bien, l'affirmation de l'apôtre, c'est « rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ ». Et nous voyons là toute la force de l'amour du Christ, quand nous le connaissons, eh bien cela permet d'être au-dessus des épreuves en sentant sa présence à côté de chacun de nous. Enfin, les versets 37 et 38, il nous est parlé de je suis assuré, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est-à-dire, ce sont des termes en relation avec la création. C'est-à-dire, que ce soit la création visible ou la création invisible, présente ou future, terrestre ou spirituelle, eh bien, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu ici qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, quand nous ne connaissons pas les épreuves, peut-être que nous perdons la perception de quelque chose sans doute qui est extrêmement précieux, l'amour de Christ dans nos circonstances. Eh bien, pensons toujours à la force de l'amour de Christ, quelles que soient nos circonstances. Dans Éphésiens maintenant, pour avancer un petit peu, Éphésiens 5, verset 25. Le troisième caractère de l'amour de Christ, eh bien, c'est le dévouement de l'amour de Christ pour son Église. Verset 25. Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Et nous voyons que Christ, si Christ s'est offert et il s'est livré pour l'assemblée, cela veut dire qu'il a des droits. Il a des droits sur son Église, il a des droits sur nous, il a des droits sur l'assemblée, il a des droits sur son épouse. Et comment il montre qu'il a des droits sur son épouse? Eh bien, c'est par sa tendre sollicitude qu'il a pour elle. Et nous voyons que si Christ s'est offert et s'est livré lui-même pour elle, eh bien maintenant, il continue dans son amour à la sanctifier, à la purifier par le lavage d'eau, par la parole, afin que quand il va venir, il puisse se la présenter à lui-même parfaite, dans toute sa beauté. Et ce sera le résultat de son amour dévoué pour son Église pendant tout le temps qu'elle est sur cette terre. Quel dévouement! Quel dévouement de Christ aujourd'hui pour son Église! C'est le dévouement de l'amour. La page avant, nous avons lu quelque chose de ce verset 19 du chapitre 3 d'Éphésiens, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. C'est un verset d'un paradoxe extraordinaire. Nous sommes appelés à connaître l'amour de Christ, mais qui surpasse toute connaissance. Et je ne sais pas si vous vous êtes arrêté sur cette expression, l'apôtre nous sollicite nos cœurs et nos âmes afin que nous connaissions l'amour de Christ, le connaître. Et en même temps, il nous dit que c'est un amour qui surpasse toute connaissance. Et quel extraordinaire paradoxe. Et alors, si nous lisons un petit peu plus haut, au verset 16, il nous est dit « Afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifié en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » C'est-à-dire que, malgré ce paradoxe que nous pouvons trouver dans ce verset, de connaître un amour qui surpasse toute connaissance, eh bien, nous voyons que Dieu nous a donné cette capacité par son esprit. Et nous avons la capacité par l'esprit de Dieu de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. C'est-à-dire de l'apprécier, d'en jouir personnellement. Mais cette connaissance, eh bien, elle va s'accroître si nous avons à cœur de nous pencher sur les Écritures, dans les Écritures, pour voir ce qui nous est dit sur la personne du Seigneur Jésus, comment il a manifesté son amour dans les Évangiles et comment il continue à manifester son amour envers nous et envers l'Assemblée. Eh bien, cet amour qu'il manifeste jour après jour, nous allons l'apprécier encore plus, nous allons le connaître un peu plus. Et donc nous voyons que Dieu, dans sa grâce, eh bien, il nous a donné son esprit, l'esprit de Dieu, afin que nous connaissions graduellement et que nous entrions de plus en plus dans l'étendue de l'amour de Christ, une étendue infinie. Mais nous sommes appelés, jour après jour, à nous pencher sur les Écritures pour discerner, comprendre et avancer dans la connaissance de l'amour de Christ. Et comme dit l'apôtre, c'est bien sûr un océan illimité qui ne pourra sans doute jamais être exploré totalement, mais nous aurons sans doute l'éternité pour le connaître. Enfin, le dernier verset que nous avons lu dans Galates 2. Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. On peut sans doute terminer par ce verset. Pourquoi ? Ce verset nous parle de l'appropriation personnelle de chaque croyant, de chaque croyante, l'appropriation personnelle de l'amour de Christ. L'apôtre, il peut dire, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et alors, la question se pose, dans quelle mesure, dans les jours qui passent, les jours après jours, dans quelle mesure nous entrons et nous nous approprions de l'amour de Christ. Est-ce que nous en avons conscience de l'amour de Christ qui se manifeste par tous les détails dans notre vie? Est-ce que nous avons conscience et une conscience personnelle? Là, c'est bien sûr une conscience, elle est personnelle. Mais la conscience que Christ nous aime, il nous a aimés, il s'est livré lui-même pour chacun de nous. Est-ce que nous arrivons à nous approprier de l'amour de Christ dans notre vie? Puissions-nous être capables de considérer l'amour de Christ dans son étendue, dans sa fidélité, dans sa force, dans son dévouement pour l'Église, et que nous puissions jour après jour, dans nos cœurs et dans nos consciences et dans nos âmes, nous approprier ce qu'est l'amour de Christ pour chacun de nous et pour son Église.
Jésus a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Et chacun, comme nous l'avons dit, Christ m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi, dit l'apôtre Paul. Chacun, les croyants, peut le dire, Christ m'a aimé et s'est livré lui-même pour elle. Mais nous voyons quand l'apôtre parle aux Corinthiens de ces trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour, le Seigneur a aimé l'assemblée jusqu'à la mort. Et il la nourrit et il la chérit. Et pour nous, combien pour le réaliser dans nos pensées, dans nos cœurs, combien le Seigneur nous a aimés. Nous puissions vivre pour lui comme l'apôtre vivait pour lui. Et il se nourrissait de Christ, il vivait pour lui. Nous puissions aussi nous-mêmes le réaliser, combien le Seigneur nous a aimés et m'a aimé. C'est une grâce immense de savoir que la plus grande des choses, c'est l'amour de Christ pour nous.
Dans ces versets de Galates 2, on a trois mots qui sont souvent associés, qu'on associe, qu'il nous faut toujours associer. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi. La foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je n'annule pas la grâce de Dieu. Et je m'arrête là, et juste en parallèle, dans le début des Éphésiens, chapitre 2, verset 4. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts de nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ, vous êtes sauvés par la grâce, et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il est parlé là de la bonté, il est parlé de la miséricorde de Dieu. C'est différent et pourtant semblable et très voisin de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, on peut dire que c'est la partie centrale, c'est le mot qui regroupe au fond l'ensemble de toutes ces choses. La grâce telle qu'elle nous est présentée là, c'est l'attitude de Dieu envers nous. Cette décision de ne pas nous condamner comme nous le méritions, mais d'agir en grâce à notre égard. Et puis, ce qui répond à cette grâce, c'est la foi. Et d'autres passages, je ne vais pas chercher maintenant, nous parlent de notre foi en l'œuvre du Seigneur Jésus. Dans Galates 2:20, Paul condense, si on peut dire, la foi au Fils de Dieu. Et on peut le lier aussi à ce qui nous est dit, quand il est dit « Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi », et ou dans les Éphésiens, « Vivifié ensemble avec le Christ, ressuscité ensemble, fait asseoir ensemble dans le Christ Jésus », cette association que l'Évangile nous présente avec le Seigneur, nous sommes associés à lui, nous sommes liés à lui parce qu'il nous a aimés, parce qu'il a usé de grâce, parce que le Seigneur pratiquement est venu accomplir cette œuvre à la croix pour que cette grâce puisse se déverser entièrement et agir en ceux qui croient, en ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus. Foi, notre réponse, la grâce, la manière d'agir de Dieu, l'amour, le motif central de pourquoi, pourquoi dans les deux sens du mot, pourquoi, dans quel but, et pourquoi, pour quelle raison Dieu a agi ainsi envers nous.
Mon Dieu.